Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue à Magnificat, l'émission de l'association Marie de Nazareth. Je vous invite à vous rendre sur notre site mariedenazareth.com. Tant de choses vous y attendent. Vous pouvez vous inscrire librement pour prier une neuvaine en ligne en recevant chaque jour un texte en communion avec les milliers de priants qui se sont eux aussi inscrits. Très agréable cette communion de prière. Vous pouvez aussi retrouver toutes nos publications dans notre librairie en ligne. Vous découvrirez comme ça nos auteurs. Et nous avons mis en vente pour quelque temps le livret collector de la neuvaine de Marie qui défait les nœuds. Cette neuvaine originale est légale parce qu'il y en a beaucoup qui circulent et qui ne sont pas la vraie neuvaine. Même, je pense que le bon Dieu n'y voit pas de problème. Mais malgré tout, il y en a une écrite par le père Celero, qui a été vendu à plus d'un million d'exemplaires et que vous pouvez retrouver donc cette neuvaine collector sur notre site dans l'onglet de la boutique. Voilà, cette semaine, Justina psalmodiera de nouveau. Bonjour Justina.
Bonjour.
Nous parlerons de la transfiguration. Puis j'aurai la joie d'accueillir Étienne van der Broek et nous parlerons ensemble de Notre-Dame de Vallarpadam. Alors Justina, tout de suite, nous vous écoutons.
Oui, bonjour. Donc, nous allons lire le fragment qui a été lu aujourd'hui chez les catholiques romains de rite Paul VI, oui. Évangile de Luc, chapitre 9, versets 28b au 36. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Et il advint, comme il priait, que l'aspect de son visage devint autre et son vêtement d'une blancheur fulgurante. Et voici que deux hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie, qui, apparus en gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. S'étant bien réveillés, ils virent sa gloire et ces deux hommes qui se tenaient avec lui. Et il advint, comme ceux qui se séparaient de lui, que Pierre dit à Jésus, « Maître, il est heureux que nous soyons ici. Faisons donc trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait, et pendant qu'il disait cela, survint une nuée qui les prenait sous son ombre, et ils furent saisis de peur en entrant dans la nuée. Et une voix partit de la nuée qui disait « Celui-ci est mon fils, l'élu, écoutez-le ». Et quand la voix eut retenti, Jésus se trouva seul. Pour eux, ils gardèrent le silence, et ils ne rapportent rien à personne en ces jours-là de ce qu'eux ils avaient vu. Donc, nous venons de lire ce passage et qui nous parle des événements que nous fêtons normalement au mois d'août, la Transfiguration. En effet, les événements du mont Tabor se produisent peu avant l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem et donc peu avant sa passion et sa résurrection. Mais comme c'est une grande fête, il a été trouvé peu convenable de l'avoir en plein milieu de carême. Il y a donc eu un report de fête en été. Et c'est exactement pareil chez les orthodoxes d'ailleurs. Ah. Mais cette lecture est lue aujourd'hui. Et donc, je vais la commenter.
C'est quand même étonnant de l'avoir mise là.
Ce n'est pas étonnant parce que ça va dans le récit vers Jérusalem.
Oui, quand même. Moi, ça me... Bon.
Donc, et qu'est-ce qui se passe? Le Christ monte avec ses trois disciples sur la montagne, ce lieu de rencontre avec le divin. C'est le cas aussi dans l'Ancien Testament, tout comme Moïse qui monte sur le mont Sinaï et voit Dieu, et Élie s'entretient avec Dieu sur une montagne. Et à ce moment-là, la gloire divine du Christ est révélée par son visage et ses vêtements resplendissants. Et face à qui se trouvent-ils? Moïse et Élie. C'est là que ça devient intéressant. Le premier sens qui saute aux yeux est symbolique. Le Christ réunit ici Moïse, qui selon la chronologie est déjà mort. Élie qui n'a jamais connu la mort, car il a été pris au ciel. Pierre, Jean et Jacques qui sont, eux, en vie. Finalement, nous avons tous les quatre figures possibles qui sont réunies en un même lieu, en même temps, en entrant ainsi en relation. Dieu est pleinement maître du temps, de l'espace et de la condition humaine. Mais ce cas nous donne deux pistes de réflexion. On peut dire, comme je l'ai déjà supposé dans l'émission sur l'eschatologie, que dans l'éternité divine, tout s'est déjà produit, y compris le jugement dernier et la résurrection, et voilà que nous voyons Moïse déjà ressuscité. Après tout, c'est une rencontre en présence de l'Éternel, donc tout est possible. Mais permettez-moi de faire une autre supposition. Et si cette rencontre n'était pas un point de départ pour chacun? C'est-à-dire que si l'événement au mont Tabor n'est pas une rencontre de plus entre l'Éternel, les vivants et les morts, mais la rencontre unique dans l'éternité qui a été la révélation fondatrice pour Moïse et Élie, les inspirant dans leurs actions. Ainsi, ils sont descendus chacun de leur montagne dans leur époque respective. Je n'ai pas la réponse, bien sûr, à cette question, mais ça reste une piste intéressante, peu explorée. Dans le verset 31, quand il, c'est-à-dire Jésus, Moïse, il parle du départ de Jésus, c'est bien le mot exode, exodus, qui est employé. La mort et la résurrection, telle une libération ultime, font écho à l'exode. L'apôtre Pierre réagit de manière maladroite en proposant de faire des tentes et rester dans cet instinct de l'éternité. Les tentes sont aussi liées à la fête de Soukhot, la Pentecôte vétérostémentaire qui symbolise la présence divine. Mais hélas, ce n'était qu'un avant-goût de l'éternité, car il restait beaucoup à accomplir pour que cette éternité devienne accessible à tous. Donc, ils n'ont pas pu rester en s'appropriant cette expérience du divin. Oui, je pèse mes mots, cette tentative de rester au sommet dans la grâce divine sans y inviter le reste de l'humanité est une tentative d'appropriation. Ensuite, il y a la scène de la théophanie avec la nuée, la fameuse Shekinah, gloire divine, et la voix céleste qui marque l'authenticité de l'instant. Cet avant-goût de l'éternité était tellement fort et incompréhensible pour les apôtres qu'ils ont gardé le silence de cet événement jusqu'à Pâques.
Jusqu'à Pâques, oui. Merci beaucoup, Justina. Alors, nous allons écouter à présent le chœur Saint-Ambroise, louange à toi, Jésus transfiguré.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors, je reçois cette semaine Étienne van der Broek. Bonjour Étienne.
Bonjour Madame France.
Alors, je suis très heureuse de vous accueillir. Il faut que j'explique quand même à nos auditeurs, nous ne nous connaissons que par mail et par téléphone, parce que vous faites partie des abonnés de l'association Marie de Nazareth et vous nous aviez envoyé un message nous demandant d'écrire quelque chose sur Notre-Dame de Valarpadam pour notre email quotidien Une Minute avec Marie. Ce que vous avez fait, en fait, vous avez écrit un beau texte que notre rédactrice en chef était très heureuse de reprendre et qui sera présenté aux lecteurs de la newsletter au mois d'avril. Et ils pourront ainsi découvrir Notre-Dame de Valarpadam. Et voilà, ce sont vraiment des liens typiques que nous pouvons développer avec nos abonnés chez Marie de Nazareth, voilà, qui appellent la permanence téléphonique pour nous proposer un livre, des textes, un reportage, des photos. J'aime beaucoup ça, donc voilà, j'avais saisi l'occasion, cher Étienne, parce que je ne connaissais pas du tout Notre-Dame de Valarpadam. Nous avions parlé de Notre-Dame de Valangkanni dans cette émission, mais je me rends compte que le sud de l'Inde est finalement beaucoup plus riche en sanctuaires catholiques que je ne le pensais. Vous avez aussi fait partie de l'équipe des Vierges Pèlerines. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'était que ces Vierges Pèlerines?
Les Vierges Pèlerines, c'était M. Fricoteau qui a lancé ça en France dans les années 90.
Oui.
Et à un moment donné, il a fait bénir au sanctuaire de Notre-Dame de France toutes ces vierges pèlerines qui sont parties d'abord en France et puis il a voulu étendre le mouvement au monde entier. Et donc, il a lancé un appel aux personnes qui voulaient le rejoindre. Et directement, j'ai compris que j'étais appelé en regardant l'image de Notre-Dame de France et en lisant le texte. J'ai écrit à M. Fricoteau pour lui dire que voilà, ben, j'étais partant pour l'aventure. Et puis la Belgique s'est lancée dans l'histoire également. Donc on avait une Vierge pèlerine qu'on recevait. Et donc on cherchait des places pour la faire accueillir, la faire prier. Et on expliquait en même temps l'histoire de cette Vierge pèlerine qu'on recevait. On organisait ça dans des églises, des écoles. Moi je suis allé également dans des maisons de repos, chez l'habitant. Donc j'avais une journée et à la fin des Vierges Pèlerines, on est allé jusque là en 2018. On n'a pas arrêté avec la France, qui a arrêté en 2000. Eh bien, j'avais 2 mois de visitation de la Vierge, tous les jours.
C'est extraordinaire. Alors, on sent frémir de nouveau quand même dans certaines paroisses cette tradition des Vierges Pèlerines. Et vraiment, j'invite les laïcs, sinon si ça n'existe plus dans les paroisses, à le faire parce que c'est beau cette chaîne de prière et cette Vierge Marie qui va de maison en maison. C'est très beau, il faut vraiment poursuivre ce genre de choses. Et alors ensuite, vous êtes attaché à Notre-Dame de Valarpadam. Comment un Belge peut s'attacher à Notre-Dame de Valarpadam?
Mais ça, c'est la Vierge qui est venue me chercher, je pense. Parce que les Vierges pèlerines en Belgique, elles ont arrêté en décembre 2018, donc il n'y avait plus rien, puis il y a eu le Covid. Et moi, j'ai reçu un cadeau d'une dame qui ne savait plus s'en occuper, une statue Notre-Dame de France, que j'ai fait visiter l'année dernière, au mois de mai, pendant un mois auprès des personnes de mon village pour prier. Et après, c'était tout. Oui. Il a fallu qu'une religieuse qui revient de vacances de l'Inde, de sa famille, me ramène une petite image, un petit souvenir, une petite image. Bon, c'est pas plus grand que l'intérieur d'une custode. Donc, vous voyez genre, à peu près de la grandeur.
Une petite image, oui.
Ouais. Et en la regardant, en la contemplant, à un moment donné, là, je ressens cet appel, comme j'avais ressenti quand je suis parti dans les Vierges pèlerines. Alors, j'ai dit à la Vierge, voilà, moi, je suis prêt, si c'est ce que tu veux, ouvre-moi les portes. Mais j'avais pas encore l'histoire à ce moment-là. La sœur, on l'a raconté en grande ligne. Oui. Elle m'a dit qu'elle m'enverrait l'histoire. Et puis, je suis allé sur Internet pour chercher quand j'ai reçu l'histoire, le résumé qu'elle m'a envoyé. Et là, j'ai remarqué qu'il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas de Vierge pèlerine, rien. Donc, j'ai compris qu'il fallait demander l'accord du recteur de Valapardame.
Oui.
C'est ce que j'ai fait avec une personne qui a traduit pour moi en anglais, parce que mon anglais est basique, je dirais. C'est le temps de l'école, voilà, c'est tout. Et j'ai demandé l'accord pour pouvoir la reproduire, l'agrandir, avoir une image de là-bas et l'agrandir, mais prise sur l'original.
Alors,
et j'ai reçu cet accord-là.
Et alors donc, nous parlons de Valapardame, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, tout ce que je savais, c'est que c'était dans le sud de l'Inde, mais...
C'est le sud-ouest de l'Inde, c'est exact. En fait, c'est une des 6 îles qui dépend de Kochi. C'est pas une grande île, elle fait à peine 6 km² de surface, c'est pas tellement grand.
Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas?
Ça s'est passé à la fin du 15e siècle.
Oui.
Ce sont les Portugais, les missionnaires portugais qui sont venus évangéliser tout le coin là-bas.
Oui.
Ils ont commencé par construire des églises. Alors, quand ils sont arrivés à Valapardame, ben, l'église était dans un piteux état, mais il a fallu la reconstruire. Parce que l'église d'époque date du 9e siècle.
Ah, déjà, dès le 9e siècle, il y avait quelque chose.
Il y avait une église là-bas.
D'accord.
Ouais. Et donc, ils ont reconstruit cette église. Et ils ont évangélisé les gens du coin en les acceptant donc comme chrétiens à la Pentecôte 1524.
Oui.
Mais ils ont construit également dans cette église un autel à la Vierge. Alors, c'est un an, puisqu'ils avaient amené une image, enfin, une icône.
Oui.
Et c'est celle de Notre-Dame de Valapardame, c'est celle-là. Elle s'appelait à l'époque au Portugal Notre-Dame de la Miséricorde. Et là, ils ont décidé de l'appeler autrement. La traduction Google donne Notre-Dame de la Rançon. Oui. Moi, la traduction que j'ai reçue d'après les documents qu'on m'a envoyé, que cette religieuse m'a envoyé, c'est Notre-Dame de la Rédemption. Alors, pour moi, elle est rédemption, je veux dire.
Oui.
Je ne sais pas laquelle des deux est la bonne formule, mais pour moi, elle est rédemption.
La deuxième me semble quand même plus juste.
Plus juste,
oui.
Voilà. Ouais. Et donc, ils ont accepté tous ces chrétiens.
Et alors là, il y a eu des guérisons miraculeuses, c'est ça, petit
oui,
à petit.
Il y a eu un fait miraculeux 156 ans plus tard. Mais il faut savoir que c'était la première église en Asie qui était consacrée à l'Esprit Saint.
Ah.
Et donc, le fait suivant, c'est un fait malheureux, en 1676, donc 152 ans plus tard,
oui.
Il y a des fortes inondations, elles détruisent l'église.
Des inondations, oui.
Oui, tout est détruit dans le coin, les églises sont détruites, c'est dévasté presque totalement, la région est presque totalement dévastée. Et le portrait de Notre-Dame de la Rédemption
oui.
est vu sur la rivière en crue, mais on ne sait pas le récupérer. Alors, c'est le divan, c'est-à-dire le premier ministre du roi de Cochin, il s'appelait Palliat Valiakan,
oui.
qui réussit à le récupérer de l'eau. Et là, il est surpris de constater que la photo n'était même pas mouillée. Ça, c'est le premier miracle.
Ah oui.
Il descend à Valapardame et il fait un don d'un vaste terrain au bord de l'eau pour construire une nouvelle église, en consacrant ce portrait. Ça, c'est une des conditions qu'il veut.
Oui.
Et lors de la bénédiction de la nouvelle église, c'est un généreux premier ministre. Il offre la lampe du sanctuaire qui brûle jour après jour depuis 1676.
Mais il était croyant, il était catholique, ce premier ministre.
On ne le dit pas.
Ah,
on ne le dit pas.
D'accord.
On ne le dit pas. Mais voilà, il l'a offert. Et l'huile du sanctuaire, là c'est encore un peu plus fort également, elle provenait régulièrement du palais ancestral de Divan. Ouais. Et donc à l'heure de la grand-messe pontificale du 24 septembre, on commence toujours par le versement de l'huile dans le sanctuaire, par les membres de la famille royale à l'époque. Et donc ça a continué.
C'est toujours le cas, vous voulez dire?
Oui, on continue à perpétrer cette tradition d'offrir l'huile d'abord ce 24 septembre.
D'accord.
C'est une fête importante, en fait. Ça dure 9 jours de préparation.
Ah oui. Alors, il y a une chose, on sait qu'en Inde, ils sont très nombreux. Les catholiques sont peu nombreux. Ils sont 2,3% de la population. Mais ça fait quand même 30 millions de personnes. Et majoritairement installées dans le sud.
Oui.
Donc, effectivement, il faut plusieurs jours pour
important.
Accueillir tout le monde. Ah, oui.
C'est un sanctuaire important. En fait... ça fait quand même 500 ans.
Oui.
Que ça, enfin, cette année-ci.
Oui.
Mais c'est Jean-Paul II qui a décidé de l'appeler basilique mineure. Il l'a érigée en décembre 2004. Le Kerala est une très belle région, paraît-il. Je ne suis jamais allé. Je ne saurais pas vous dire comment c'est, mais j'ai entendu parler. Mmh. Et ça, on l'appelle le Lourdes du Kerala. Alors, c'est multiculturel. Ce sont des gens du monde entier qui viennent. Et ça représente à peu près 5 millions de pèlerins par an.
Mmh.
Ils viennent d'où le Lourdes du Kerala, puisque Lourdes a la même chose en France également. Autant de pèlerins qui viennent.
Mmh. Alors, ce sanctuaire n'est pas né d'un miracle, mais il vit grâce à un autre miracle aussi.
C'est exact.
Pouvez-vous nous en parler, s'il vous plaît?
Ça, c'est le 23 mai 1752.
Oui.
C'est une dame nère, c'est-à-dire nère, ça veut dire qu'elle est noble, elle est hindoue.
Oui.
Donc, mais elle connaît Notre-Dame de Valaparnam. Elle s'appelle Meenakshi Amma, et avec son fils, elle est de la maison de Palil, elle se rendait au temple familial à Mantakeri. Et lorsque le bateau, puisque pour aller là-bas, atteindre cette île, il n'y a qu'un bateau.
Ah oui.
C'est pas possible. On n'a fait qu'une route qu'à partir de 2004. Donc elle va en bateau même à son temple. Il y a plusieurs personnes sur le bateau, mais quand le bateau arrive dans les eaux profondes, il y a le vent qui monte, il secoue le bateau, ça devient une tempête terrible, et elle sent que ben, ça va tourner mal pour tout le monde. Et elle demande d'invoquer directement Valarpadatama, c'est comme ça qu'ils appellent la Vierge là-bas. Et elle promet à la Vierge que si elle et son fils sont sauvés, ils seraient ses esclaves. Esclaves en Inde, c'est Adima.
Oui.
Elle annonce, elle va même très loin, elle dit on sera vos esclaves pour le reste de la vie. Le bateau chavire malheureusement, les autres personnes sont sauvées, les deux qui coulent, ben c'est la maman et son fils.
Oui.
On ne sait pas la récupérer. L'océan est houleux, il n'y a pas moyen de la récupérer. Et le premier soir, le vicaire du village reçoit la visite de la Vierge. On ne sait pas si la Vierge a dit quelque chose ou pas, on n'en parle pas. Oui. La deuxième nuit, la même chose. La troisième nuit, la même chose.
Oui.
Et là, il lui demande à la Vierge, où est-elle? Où sont-ils, pardon? Et donc, elle est parvenue, ils sont parvenus à la retrouver à l'endroit exact où la Vierge avait dit. Elle ressort, elle et son fils, sains et saufs de l'eau. Alors qu'ils, étaient 3 jours dans le fond. Ils ont dit qu'ils avaient été dans un endroit magnifique, serein, et qu'ils avaient vu la Vierge et l'enfant.
C'est magnifique.
Et donc, elle a tenu promesse. Elle est devenue l'esclave, comme on dit. L'esclave est un grand mot, puisque c'est 40 ans après le fameux traité de Saint-Louis-Grignol-Montfort qui a été écrit, mais qu'on n'a retrouvé que 130 ans plus tard. Donc, elle ne savait pas. Ça, c'est le deuxième miracle qui a déclenché les pèlerinages et tout, je pense. Voilà.
Et alors donc, maintenant, je pense que c'est comme à Valankani, il y a sans doute des hindous qui se rendent aussi là-bas, je suis sûre, hein, parce que
oui,
la Vierge Marie est très aimée en Inde.
C'est exact. C'est multiculturel. Donc, ils vont là-bas, ils vont prier. Certains s'offrent à la Vierge en esclave.
Oui.
Les fruits sont nombreux, ce sont surtout des conversions.
Oui.
Il y a également des personnes qui viennent là-bas pour avoir des couples heureux, pour le mariage.
Oui.
Les personnes enceintes viennent également pour demander la protection de la Sainte Vierge.
Oui.
Et alors des autres personnes qui viennent pour demander la grâce de parents, d'être parents. Et ça se produit.
Oui.
Un autre fait également, ce sont les pêcheurs et les propriétaires de bateaux qui viennent pour faire bénir leur bateau, pour traverser les eaux sans encombre, et c'est ce qui se passe, comme on a dit. Les grands faits là-bas, c'est surtout le 24 septembre, donc il y a une neuvaine à partir du 16.
Oui.
C'est tout, et elle commence donc par des neuvaines de prière, surtout, également.
Oui.
Mais il y a aussi un autre moment, c'est la semaine, le premier dimanche qui suit le 8 septembre, la fête de la Nativité de la Sainte Vierge. Alors c'est tout l'archidiocèse qui fait pèlerinage à pied, archevêque, évêque, prêtre et laïc. C'est un trajet d'à peu près 14 kilomètres. Oui. Ils effectuent un priant le rosaire en chantant des louanges. Et au cours de l'Eucharistie pontificale, l'archevêque consacre tout l'archidiocèse en tant qu'adima, donc en tant qu'esclave, à la Vierge Marie. Et les jeunes et moins jeunes participent avec beaucoup d'entrain.
C'est très touchant, cette notion d'esclave, parce qu'il y a des castes en Inde. Donc, pour eux, c'est vraiment... ça signifie énormément.
Ça signifie énormément, c'est vrai. Et alors, c'est un sanctuaire qui vit très fort. Ils ont des veillées de prière, ils ont des processions aux chandelles, comme ils s'appellent. Le week-end, c'est fantastique. Le samedi, vous avez 4 messes, et le dimanche, vous avez 7 messes.
Oh là là. Ah oui, effectivement.
Donc, en plus des adorations, rosaire, prière de neuvaine, prière de guérison, procession aux chandelles également.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup Étienne d'être venu nous parler de Notre-Dame de Valarpadam que nous avons découvert aujourd'hui. Je vous invite, chers auditeurs, à vous inscrire au mail quotidien Une Minute avec Marie. Vous pouvez gratuitement vous inscrire en ligne et dans quelques semaines, vous verrez le papier que nous a écrit Étienne sur ce sujet. Merci encore d'avoir bien voulu venir aujourd'hui dans l'émission. Chers auditeurs, je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.